Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, les filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Les passants sur son chemin soulèvent leur galure. Le chien lui lèche les mains. Sa présence rassure. Voyez cet enfant qui bugle.
Au sommaire aujourd'hui, une émission qui va s'intéresser à la... aux faits divers et puis à la figure du tueur en série, à la manière dont il est représenté dans le cinéma français. Bon, la plupart du temps, il s'inspire de cas réels, mais pas toujours. C'est pour ça qu'on fait ce petit distinguo. Et aujourd'hui, on va vous parler donc de quelques films, comme par exemple Le Landru de Claude Chabrol, un film de 63 qui est disponible chez Studio Canal. Le Boucher, toujours de Claude Chabrol, un film de 70. Disponible chez Aventi Distribution, où justement Chabrol fait les deux, parce qu'il nous cause d'un vrai cas de tueur en série, et à côté, un cas de tueur en série qu'il a inventé, mais pour parler d'autres sujets, on en reparlera. Un autre vrai tueur en série, mais qui a librement inspiré un film plus tardif de Christian de Chalonge, qui est disponible chez Tamaza, c'est le Docteur Petiot, qui a été donc adapté, enfin pas adapté, dont la vie a été mise en scène en 1990. On verra si on a le temps de vous parler de tous les films qu'on vous annonce là, mais on vous parlerait bien aussi de Scène de crime de Frédéric Schoendorfer, disponible chez Studio Canal, un film de 2000. La prochaine fois, je viserai le cœur, un film de 2014 de Cédric Anger, disponible chez TF1 Vidéo. L'affaire Esquin de Frédéric Tellier, disponible chez M6 Vidéo, un film de 2015. On vous glissera peut-être un mot sur le dossier Mal d'Aurore, un film de 2024 de Fabrice Duvel, disponible chez The Jokers. Mais surtout, surtout, on fera un petit focus sur Peter Dourounzis, qui s'intéresse beaucoup à la masculinité toxique et qui a donc mis en scène deux histoires de tueurs. Alors, une du côté du tueur qui est Vorien, un film de 2020 qui est sorti chez Réseau Film, et une du côté des enquêteurs, en l'occurrence là de journalistes, qui s'appelle Rapace, qui sort chez Zinc et qui est un film de 2025. Pour causer faits divers et tueurs en série dans le cinéma français, je suis entouré de personnages un peu flippants quand même, je dois bien l'avouer. C'est eux qui, sous la menace d'une arme, m'ont obligé à aborder ce sujet. Je veux bien sûr parler du terrifiant Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, un archéologue psychopathe en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Encore plus terrorisant parce qu'il a beaucoup plus d'expérience dans le crime au cinéma, je précise quand même. Je veux parler de celui qui s'appelle le loup-garou Picard, alias Thomas Roland, car le loup-garou malheureusement fait beaucoup de victimes. Hein. Il y a eu le boucher de Hanovre et il y a le loup-garou Picard. Hein. Voilà. Thomas Roland qui chaque nuit de pleine lune donc rédige de sanglantes chroniques avec le sang de ses victimes. Donc pour divers médias, salut Thomas.
Salut Jérôme, salut Damien et bien évidemment bonjour à toutes.
Mes futures victimes, ouais, je te vois venir. Et bien justement Thomas, puisque tu es, comment dire, tu as la parole, je te propose qu'on parle d'un cinéaste qui s'appelle Claude Chabrol et qui a beaucoup mis en scène des faits divers, hein, réels d'ailleurs, qui sont qui se sont produits dans notre pays et qui a aussi souvent mis en scène des salauds. Hein, évidemment, on se rappelle tous que La Bête meurt, avec Jean-Yann dans sans doute son plus grand rôle de salaud à l'écran. Mais il a aussi mis en scène Jean-Yann dans un film où justement, c'est un salaud sans être un salaud, il est touchant quand même. C'est un boucher de province qui tombe amoureux de Stéphane Audran, qui ne serait pas tombé amoureux de Stéphane Audran, institutrice assez trouble dans le film. Enfin, on va en parler. Et puis il a mis en scène dans un film avec Charles Denner qui est assez extraordinaire et visiblement assez proche de ce qu'a été le vrai Landru, surtout durant son procès. Donc il a mis en scène Landru, qui est lui aussi, c'est pareil, hein, on rappelle ce tueur en série qui tuait, qui arnaquait des dames, qui profitait de la période trouble, l'époque des gueules cassées, de l'après-première guerre mondiale, pour attirer des dames qu'il dépouillait et qu'il brûlait dans son poêle dans une maison de campagne. C'est un type évidemment éminemment sympathique, mais qui avait le verbe haut et qui a enchanté l'auditoire lors de son procès. Enfin, un drôle de personnage.
Moi, j'aime beaucoup Le Boucher. C'est un film que je trouve... je trouve ça vachement bien, très intelligent, de la façon dont c'est écrit. Donc, c'est l'histoire d'un... On suit un tueur en série. Enfin, on ne sait pas tout de suite qui est le tueur en série. Bon, maintenant, on le sait, hein, c'est Jean-Yann qui était... Puis c'est dans le titre, de toute façon, Le Boucher. Hein, Jean-Yann est boucher. Et donc, c'est un ancien militaire qui a vécu la guerre, qui a vu des horreurs de la guerre, et ça l'a perturbé. On suit ce personnage de Jean-Yann, enfin, à travers le point de vue du personnage de Stéphane Audran, qui est une directrice d'école dans une petite ville de province, une toute petite ville hein, des années 70. Et ce boucher tombe amoureux de Stéphane Audran. Et il a quelque chose de tout à fait touchant. En même temps, Stéphane Audran, elle va ressentir des choses pour lui qu'elle n'arrivera pas vraiment à identifier. C'est le portrait d'un tueur en série à travers le point de vue de cette femme. Et ce qui est intéressant dans ce traitement, c'est que ce n'est pas du tout spectaculaire. La mise en scène, elle est assez exceptionnelle. En le revoyant, là, j'ai vu qu'il y avait... une maîtrise du plan séquence qui était quand même assez remarquable. C'est pas du tout spectaculaire parce qu'on ne voit pas les meurtres. Les meurtres, ils sont tout à fait hors champ, ils sont rapportés par des ragots du village, même pas forcément par la police. Il y a qu'une seule scène où un inspecteur intervient, où il interroge Stéphane Audran. Mais tout est hors champ, sauf à un moment où on voit une victime, c'est tout. C'est la scène choc du film, hein, c'est quand Stéphane Audran découvre une victime. C'est assez traumatisant comme séquence parce qu'en fait, elle se fait une sortie avec des enfants et une petite fille sort son sandwich, puis des gouttes de sang tombent sur son sandwich. Bon, moi, ça m'a traumatisé, je l'ai vu quand j'étais assez jeune. C'est une scène qui traumatise, que j'ai toujours en tête quand je pense au boucher de Claude Chabrol. Donc, c'est la scène choc du film. Et à travers ce film, en fait, Claude Chabrol parle de l'ambiguïté des sentiments, parle de l'ambiguïté de la nature humaine. Parce que Jean-Yann, c'est pas un salaud, en fait. C'est un mec dont la vie est détruite par la guerre et qui, quelque part, en commettant ces meurtres, c'est un dérivatif à sa frustration. Parce que les meurtres commencent quand Stéphane Audran arrive. Cet amour qu'il n'arrive pas à consommer avec Stéphane Audran, lui, il le dérive en tuant des jeunes femmes. Voilà, c'est comme si c'est une sorte de palliatif à la masturbation quelque part. Le fait de tuer des femmes sont l'expression de sa frustration de ne pouvoir consommer son amour avec Stéphane Audran. Et Stéphane Audran, elle se rend compte bien trop tard que finalement cet homme, elle l'aimait. Mais à un moment, elle découvre aussi que c'est lui le tueur, que c'est lui le tueur en série, et elle le protège. Elle a quand même, il y a toute une ambiguïté autour de ces deux personnages. Elle est attirée par lui finalement, puis finalement elle en a aussi peur. Il y a cette scène incroyable dans la salle de classe que moi je trouve exceptionnelle, où ils sont confrontés tous les deux. Elle a peur parce que lui. Elle a découvert que c'était lui le tueur. Et donc, elle a peur qu'il l'assassine, quoi. Mais finalement, il va se passer autre chose. Et c'est là qu'elle va découvrir ses véritables sentiments envers cet homme qu'elle ne pouvait pas aimer, en fait, vu qu'elle avait découvert qui il était vraiment, qu'il était perturbé, qu'il était... Dans le fond, il n'était pas méchant, mais c'était un gars pas fréquentable.
Moi, je ne veux pas en rajouter sur ce film. Hein. Tu as dit tout ce qu'il y avait à dire. Si ce n'est peut-être que de dire que la guerre dont on parle, c'est la guerre d'Algérie. Mmh. Et que c'est vrai que ce n'était pas forcément beaucoup abordé à l'époque, la guerre d'Algérie, puisque c'est un film de 70. Hein. Donc, on est encore bien dans le dur, quoi, voilà, pour parler de politique intérieure. Voilà. Pour ce qui concerne Landru, alors c'est pareil, on aurait pu choisir d'autres films. Hein, je le dis, c'est une sélection de films qu'on a fait. On aurait pu parler de Tavernier, on aurait pu parler d'autres films de Chabrol. On a choisi de parler de cela. Et on a choisi entre autres de parler aussi de ce Landru qui est un film assez célèbre de Chabrol, sans être par contre là un de ses meilleurs. La production a été un peu compliquée avec Carlo Ponti qui était dans le coup, enfin ça n'a pas été si simple que ça, mais le personnage de Landru quand même, qui est un sinistre margoulin, hein, a quand même grandement influencé le cinéma, puisque on rappelle que il a attiré à son procès, qui était quand même atypique, hein, tout le grand monde. Hein, il y avait Mistinguette, il y avait Rému, tout le monde est venu écouter, voir la bête curieuse, ce brillant orateur. Et ça, c'est quelque chose qui va tout de suite fasciner la planète entière, puisque, par exemple, Chaplin fait Monsieur Verdoux en 48. Qui est d'après Landru, hein, qui raconte aussi le personnage de Landru. Donc c'est vraiment un tueur dont la notoriété en fait dépasse, hein, les frontières franco-françaises. Et la bonne idée de Claude Chabrol, c'est de confier le rôle principal à Charles Denner. Alors on connaît Charles Denner pour son travail avec Truffaut, mais il est plus torturé chez Truffaut. Il a une verve, il est drôle, il est assez impressionnant, il est éblouissant en fait. Et il va à son corps défendant, Denner, il contribue à renforcer ce mythe Landru, parce que c'est un mythe Landru, hein. Et il fabrique en fait Denner un personnage d'aristocrate du crime qui est quand même bien loin du petit escroc issu des classes laborieuses qui était le vrai Landru. Or Chabrol, qui est un grand directeur d'acteurs, il apprécie la prestation de Denner, il va la renforcer avec sa mise en scène. Dès le plan d'ouverture du film, il y a un travelling vers Landru, de dos à table avec sa famille, et on comprend tout de suite. Alors, l'image en impose, c'est-à-dire que Landru devient tout de suite un personnage imposant. Par contre, on comprend qu'il est, si on écoute les dialogues, qu'il est à la tête d'un foyer qui est en difficulté financière à cause de 14-18, à cause de la guerre. Et d'ailleurs, la première réplique de Landru, c'est Landru qui dit en avoir marre du hachis. Et tout de suite, voilà, ça pose le personnage qui domine de par cette prestance et puis surtout cette diction très singulière que Denner lui confère et que, sans aucun doute, les dialogues de Sagan, de François Sagan, accentuent également. C'est dire à quel point quand même un personnage fasciné, parce que c'est François Sagan qui fait les dialogues. Et ce qui est troublant avec Chabrol, c'est qu'il arrive à rendre sympathique quand même cet assassin sans lui accorder la moindre circonstance atténuante. C'est ça qui est troublant. S'il apparaît clairement comme un pervers qui s'amuse à humilier ses compagnes, hein, telle la belle Juliette Méniel qui l'envoie faire des courses en nuisette. Là, on voit bien la masculinité toxique à travers ce tout petit acte dans le film. Et le propos de Chabrol est clair. Si Landru bascule dans le crime, c'est que le contexte s'y prête. On parlera après d'un film du docteur Petiot, mais c'est une affaire de contexte, ce sont des prédateurs, et quand le contexte s'y prête, ils s'y jettent à corps perdu. Un contexte qui est régulièrement illustré par des images d'archives. Hein, dans la France de la Grande Guerre, il y a très peu d'hommes. C'est ça que montre aussi le film de Chabrol. Et ce que montre Chabrol, hein, les hommes qu'il nous montre, ce sont soit des soldats entre deux gardes, des estropiés ou des curés. Donc Landru, il suffit de lire le courrier du cœur et il voit très bien qu'il y a plein de femmes qui s'ennuient et qu'il peut en tirer profit. Et lorsque la guerre s'arrête, c'est avec regret qu'il éteint son poêle qui lui servait à brûler ses victimes. Et Chabrol aussi insinue clairement que Clémenceau, dont le secrétaire est joué par Jean-Pierre Melville, pour l'anecdote, fait passer un peu la pilule du traité de Versailles, parce que le traité de Versailles, évidemment, c'est la victoire éclatante de la France. Mais derrière, il y a toute une cohorte de déglingués, il y a toute une cohorte de soldats, de gens qui ont été envoyés à l'abattoir pour une guerre qui ne méritait pas vraiment d'avoir lieu, pour peu que les guerres méritent d'avoir lieu. Mais enfin, disons que par exemple, 39-45, quand vous êtes envahi, bah, vous devez forcément vous rétorquer, quoi, voilà. Bon, d'ailleurs, en France, ça a rétorqué tardivement. Mais c'est différent, de ce qui s'est passé en 14-18. Et donc, en fait, ce film, c'est plutôt une comédie noire. Et avec un des plus prestigieux castings féminins du cinéma français. Il y a Daniel Darieux, il y a Michel Morgan, il y a Stéphane Audran, évidemment, qui était aussi la femme de Claude Chabrol, hein, et qui jouait dans tous les films de cette période, là, les années 60, jusqu'au mi-temps des années 70, qui constituent la grande période de Chabrol. Alors Chabrol, sa mise en scène, alors Thomas, tu l'as dit, hein, c'est un metteur en scène très élégant, qu'on a souvent accusé, enfin longtemps la critique l'a accusé d'être un ersatz d'Hitchcock. C'est complètement idiot, parce qu'il y a des moments hitchcockiens dans ses films, mais il n'y a pas que des moments hitchcockiens, et il y a une vraie geste chabrolienne, et ses films sont traversés de thématiques qui hantent, et en particulier la masculinité toxique que tu évoquais. Et enfin, il met cette mise en scène au service d'une reconstitution historique qui est quand même soignée. Le procès est jouissif, la cour devient un théâtre. On sent que là, Chabrol s'amuse beaucoup, avec un Landru qui est déchaîné. Et le dernier plan post-générique est à l'image du film. Il est savoureusement impitoyable.
Monsieur le procureur, je regrette de n'avoir à vous offrir que ma tête.
Oh, oh, silence, vous faites évacuer la chambre.
Landru, vilain barbu. Tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans. Landru, ton crâne et ton poil de rue ont fait tomber bien plus d'un prix de vertu. C'était, je crois, en 1923 que ton procès eut le succès que l'on sait. Landru, dommage qu'elle t'ait cru. Toutes celles qui sous ton toit brûlèrent pour toi. Tu leur parlais si bien lorsque tu leur disais: venez ma douce amie, allons vite à Gambet. J'ai une petite villa, rien que monter descendre. Et là, seule montait et descendait ton sang.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Landru, de quel bois te chauffes-tu? Ton four fait de la fumée, sous la verte ramée. Landru, un ramoneur est venu. Il a dans ta cheminée trouvé un nez calciné. Pendant le verdict, pas un mot, pas un tic. Énigmatique, tu restes hiératique. Landru, en jaquette, en bottine, y a une veuve qui t'a eu. La guillotine. Landru, on prétend qu'on t'a vu en bon petit vieux grand-père vivant à Buenos Aires. La barbe rasée et la moustache frisée, plus rien de l'homme d'alors, c'est ça la mort. Disons tout de suite qu'en 1928, ce genre d'histoire était facile à croire. Landru, tout passe avec le temps. À présent, tu ne fais plus peur aux enfants. Mais tu séduis pourtant bien des grands-mamans. Et de Blue Castel la Tarbe, elle rêve de ta barbe et de son poil dru, vieux Landru.
Autre tueur en série français qui a profité d'un contexte, là en l'occurrence celui la Seconde Guerre mondiale, mon cher Damien, c'est le docteur Petiot, là, incarné par Michel Serrault, dans un film de Christian de Chalonge, un réalisateur que nous, on aime beaucoup, qui est un peu tombé dans l'oubli, qui a fait Malville, L'Argent des Autres, qui est un réalisateur assez passionnant. Et là, il s'inspire assez librement, en fait, c'est ce qui, de toute façon, c'est indiqué dès le générique du film, assez librement quand même de la vie criminelle, non pas d'Archibald de la Cruz, mais du docteur Petiot.
Le temps avance et les hommes restent des salauds, il semble. Alors, dans le docteur Petiot, on en suit un qui est en plus un tueur en série. Donc, comme tu l'as dit, Jérôme, le film relate la vie de ce médecin et aussi tueur en série qui, pendant l'occupation, en fait, va faire espérer aux gens qui veulent quitter la France occupée et qui peut les envoyer vers l'Argentine, mais à la place, il va les tuer et récupérer déjà l'argent avec lequel ils vont payer pour faire le passage, mais aussi leurs affaires pour fouiller dedans et récupérer des objets précieux qu'il pourra ensuite éventuellement échanger ou garder. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant son procès, donc dans le film on ne le voit pas, mais pendant son procès, il a revendiqué une cinquantaine de meurtres, mais lui, sa défense était « j'ai tué des gens, mais c'était que des Allemands ou des collaborateurs ». Il a beaucoup joué sur le fait que c'était un patriote, mais c'était un mensonge, parce que ses victimes, en fait, c'était, comme je l'ai dit, surtout des personnes qui voulaient partir la France et les persécutions nazies, donc essentiellement des Juifs. Et l'autre truc aussi, c'est qu'au final, sur la cinquantaine de meurtres qu'il a revendiqués, en fait, il va se faire condamner pour seulement 27 et il sera exécuté en 1946. Il y a un truc qui est intéressant avec ce film parce qu'il s'inspire librement, mais il réintègre des éléments de la vie de Petiot. C'est-à-dire que nous, quand on prend la vie de Petiot dans le film, on est à un moment où il est déjà médecin dans la ville de Paris, alors que la raison pour laquelle il arrive à Paris, c'est que dans la précédente ville dans laquelle il était, il y a plein d'affaires bizarres qui sont passées au point qu'il a dû partir. Par exemple, il y a un moment où une des entreprises contre qui il s'opposait a pris bizarrement feu. Il y a des gens qui ont disparu, qui n'étaient pas forcément bien à l'aise avec lui. Donc sa vie, déjà avant qu'il arrive à Paris, est très bizarre. Il y a des trucs qu'on retrouve, par exemple, le fait qu'il y a un moment où il a eu des affaires, il a été chargé d'affaires administratives, il a été maire. Et l'une des raisons pour lesquelles il n'a plus pu se présenter ensuite, c'est parce qu'il a bidouillé son compteur électrique. Et dans le film, il y a un moment où une famille a un peu du mal à payer le courant et on le voit bidouiller en fait le compteur électrique pour qu'il paye un peu moins cher. Donc on retrouve pas mal d'éléments de sa vie avant qui sont réintroduits dans le film. Pareil, à Paris, il y a un moment où il va commencer à se dire qu'il est pro, pas dans le film, du coup dans sa vie, que c'est un professionnel pour désintoxiquer les gens. Du coup, dès qu'il va y avoir des toxicomanes qui vont venir, il va leur prescrire des ordonnances pour qu'ils en aient un peu plus, selon lui, pour les guérir. Mais en fait, c'est juste pour garder une clientèle. Et dans le film, on retrouve un élément pareil où, en fait, une personne a utilisé ses ordonnances pour essayer d'avoir plus de morphine, sauf que la quantité était vraiment hors norme, ce qui fait qu'on commence à réfléchir, à enquêter autour de lui. Il y a un truc qui est très cool dans la façon dont le réalisateur Christian de Challonge filme Paris, c'est que c'est un Paris souvent qui est un peu vide dans les moments où se déplace Petiot dans le film, ce qui fait un petit effet un peu surréaliste. Il y a un petit côté un peu jeûné dans finalement cette ville de Paris qui filme. Il filme aussi par exemple les souterrains, l'endroit où on va avoir le métro, on va le voir souvent à vélo circuler dans un Paris sombre. Il y a une ambiance assez étrange qui s'en dégage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, quand on nous présente Petiot, il est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il est sympathique avec certaines gens, d'autres, il est assez étrange avant qu'on comprenne en fait ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour un passeur, mais qu'il tue des gens. Il y a aussi un truc qui est... moi, que je trouve très drôle parce que, étant de Compiègne, il y a un moment où Compiègne est beaucoup cité, notamment le camp de détention qui est très peu connu et qui est pas très loin d'ici. Ça, c'était un moment qui m'a un peu amusé. Mais ce qui est intéressant, c'est que Petiot, en fait, dans le film, il manipule tout le monde. Et l'un des éléments qu'il utilise le plus pour manipuler, c'est le patriotisme qu'il met souvent en avant. Même à la fin, au moment où on se rend compte qu'il y a des meurtres qui ont été commis et qui est mis sur son dos, justement, il va se faire passer pour une autre personne, il va changer d'identité pour essayer de s'en sortir. Et en fait, il va rejoindre les forces qui traquent justement un peu les collabos. Et l'un des moments où on le voit le plus énervé, c'est le moment où il reproche finalement à quelqu'un qui s'est fait arrêter finalement ce que lui a fait, c'est-à-dire profiter des gens, leur voler leur argent, se faire passer pour un passeur alors que c'était pas le cas. Bon, celui qui l'accuse, il dénonçait, lui, il préférait tuer les gens et voler leur argent. Vous les mettez sur le point d'égalité que vous voulez parce que c'est un peu la même chose au final. Mais il y a un dernier détail qui est très intéressant, c'est que Petiot, c'était un médecin qui a tué. Et je trouve que c'est une belle métaphore justement des années 40 et de la Seconde Guerre mondiale avec tous les médecins qu'on va avoir dans les camps de concentration et qui vont donner la mort. Et un détail, et je finirai là-dessus pour ma part, qui m'a vraiment fait prendre conscience, ce qui langue vraiment pour moi comme un énorme connard, c'est ses derniers mots avant qu'il soit guillotiné, où il a terminé en disant « Moi, je suis un voyageur qui emporte ses bagages. » Et je ne vois pas comment on peut faire plus ordure que ça.
Toi, tu parles de la période Genet et Caro, en fait, où il y avait une vraie influence de l'expressionnisme, et en particulier d'un film dont je pense De Chalons s'inspire aussi, puisqu'il y a une scène qui est assez frappante sur la référence à l'expressionnisme. Hein, et c'est le docteur Caligari de Robert Wiene, parce que le film débute, Thomas, par... Petiot qui regarde un film expressionniste allemand, un faux film expressionniste en plus qui a été tourné exprès par De Chalonge. Et quand Petiot se lève, il est avec la manière dont il est éclairé, photographié, on a l'impression qu'il fait partie du film, quoi. Et ça, c'est là on voit quand même tout le talent de ce metteur en scène qui, je le répète, est quand même un metteur en scène largement mésestimé, oublié aujourd'hui, et qui pourtant avait les éloges de la critique à son époque.
En plus, le docteur Petiot est quand même incarné par Michel Serrault, hein, qui était un grand acteur, hein, qui était un acteur génial. Hein. En effet, il y a un traitement fantastique dans cette adaptation de la vie du docteur Petiot, hein, de la façon dont il filme Paris, comme Damien l'a suggéré, avec des couleurs bleutées la nuit, puis la façon dont Michel Serrault est habillé, on dirait presque un vampire quelque part, hein, quand il se déplace la nuit à vélo. C'est très étrange, des scènes très étranges où on voit qu'il est un peu fou quand même quelque part. Il est tout seul, il parle tout seul, il crie. C'est très étrange comme séquence. Et ce qui fait toute la singularité de cette lecture de la vie du docteur Petiot.
Spécial Faits divers et tueurs en série dans le cinéma français. J'ai fait un petit bond dans le temps, pas tant que ça, hein, puisque Docteur Petiot, c'est un film qui est, en fin de compte, bon, alors, pour certains, c'est il y a 10 000 ans, parce que c'était au siècle précédent, mais c'est un film de 1990, c'est pas non plus un film qui est aussi vieux que les premiers films dont on a parlé, en particulier les films de Chabrol. Et moi, je vais faire un bond dans le temps, parce qu'il faut dire quand même que, il faut bien expliquer, il n'y a pas, quand ces films-là sont faits, les années 70, même encore jusque dans les années 90, il n'y a pas encore de grandes émissions sur les faits divers, les tueurs en série. Il n'y a pas encore ce qu'on appelle aujourd'hui des true crime. Mais disons que ça commence à arriver avec Faites entrer l'accusé, l'émission de Christophe Ondelatte qui va en France vraiment révolutionner, hein, la manière dont on traite comment dire, la question du fait divers sur le petit écran. Il y a le film aussi d'Oliver Stone, Natural Born Killers, qui va arriver avec plein d'autres films un peu en même temps, ou peu ou prou dans la même période. Le temps de vie des films avant était plus long, hein. Les films restaient plus longtemps en salle, on les découvrait après en vidéoclub. Et il y a eu, par exemple, Portrait sur le killer de John McNaughton, inspiré d'un vrai tueur, Henri Lee Lucas. Il y a eu la folie du Silence des agneaux, hein, avec les adaptations d'Harris, avec en plus le personnage qui est un mix de plusieurs tueurs. Enfin, il va y avoir plein de films comme ça. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est aussi une période un peu de décrépitude en termes de créativité. Pour le polar français, au global, polar français aujourd'hui c'est quand même un genre en difficulté, il faut dire les choses. C'est un genre qu'on aime beaucoup, mais qu'on se rappelle les années de la libération jusque les années 80. Le polar français, il y en a quasiment, allez, j'exagère peut-être, mais un toutes les deux semaines qui sort. Voilà, et il y en a beaucoup de très bons là-dedans, puis beaucoup de bons. Puis il y en a des petits moins bons, mais enfin, il y a quand même une belle production. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a certaines nostalgies. Il y a eu un livre de Rod Glacial, là, Polar 80, qui est sorti, qui est vraiment pas mal du tout, d'ailleurs, qui est sorti chez Le Chat qui fume. On peut sentir tout ça. Et donc là, on arrive, les années 90, c'est un peu une sorte de queue de comète quand arrive ce docteur Petiot. Je vous dis, il y a l'émission de Christophe Ondelatte qui va un peu tout révolutionner à la télé. Pourquoi elle révolutionne tout? Parce que c'est tout l'inverse des émissions d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconstitution dans les émissions d'Ondelatte. Et ça, c'est quelque chose de primordial, je trouve, qui fait que l'émission est d'une qualité supérieure à puisque forcément, s'il n'y a pas de reconstitution, Il n'y a que les faits et que les acteurs des faits qui peuvent en parler. Donc du coup, on a une véracité qui va être différente de pas mal de choses qu'on peut voir aujourd'hui, parce que, en gros, hein, dans cette émission, on ne suit que les magistrats, les enquêteurs, un peu les victimes, mais pas tant que ça. D'ailleurs, c'est intéressant de voir l'évolution de l'émission, qui est une émission culte de la télévision française et qui est revenue avec plusieurs présentateurs différents et qui a évolué avec le temps, où aujourd'hui, on n'a toujours pas de reconstitution, mais on a des choses qui s'en approchent sans en être, et où on a aussi des moments où on franchit un peu la barrière de la pudeur, c'est-à-dire où on voit les victimes en pleurs, les familles de victimes. C'est des choses qu'on ne voyait strictement pas dans les versions de On de Latte au départ. Et c'est ça qui a fait qu'on a découvert à cette époque-là plein de faits divers. Je me rappelle, il y avait des collections de VHS sur les plus grands tueurs en série. C'est au moment où explose aussi une collection qui paraissait en maison de presse toutes les semaines avec une VHS, un petit truc d'une demi-heure sur un tueur en série différent. Ça avait démarré avec Manson, d'ailleurs, qui n'est pas un tueur en série, c'est assez rigolo, mais on l'assimile souvent au tueur en série. Et qui est un dirigeant de secte, voilà, qui a ordonné des meurtres, qui a participé peut-être à quelques meurtres, mais qui n'est pas, selon les profilers, un tueur en série classique, typique. Et c'est marrant, il y a cet engouement qui arrive, et paradoxalement, dans le cinéma américain, ça explose de partout. Mais dans le cinéma français, c'est quand même vraiment une période creuse. C'est une période creuse qui va se continuer. Hein. Le polar français, aujourd'hui, il est quand même toujours un peu atone. Et c'est pour ça qu'on est content, on va vous parler de quelques polars là, qui ont marqué les années 2010-2020. Mais avant, il y a un film de 2000, Frédéric Schoendoerffer. Frédéric Schoendoerffer. Schoendoerffer, c'est un nom tout de suite. Thomas, on pense, quand on dit Schoendoerffer, on pense
à Pierre Schoendoerffer, le crabe tambour, l'Indochine.
La 317e section. Ouais. Effectivement, on pense à ce réalisateur. Bah, il a un fils, Frédéric Schoendoerffer. Et Schoendoerffer va, dès son premier long métrage, atteindre une sorte de summum qui va jamais en fait réussir à dépasser ensuite d'ailleurs. Et il va rester pendant de longues années un artisan du polar français. Il fait toujours des polars aujourd'hui. Il n'a jamais arrêté de faire des polars, mais il n'a plus jamais retrouvé la maestria de ce premier film, qui est donc Scène de crime, qui met en scène Charles Berling et André Dussolier, un duo de policiers. Dussolier, c'est un policier vieillissant, alcoolique... qui est clairement en perte de confiance. Et puis, il y a Charles Berling, qui est un jeune policier plus ambitieux, un enquêteur assez laborieux, mais assez brillant, très travailleur, voilà. Et ce film nous arrive comme un coup de poing. Moi, je me rappelle la découverte du film. Il y a un plan-séquence assez magnifique où ensuite, on va jouer, à travers la mise en scène du premier meurtre, sur la diégétique, parce qu'il y a une victime qui porte un Walkman sur les oreilles. Enfin, on va jouer sur tout ça. Et d'entrée de jeu, je suis assez bluffé par le film. Et en plus, le film fait un petit emprunt à Friedkin et à Police Fédérale Los Angeles à un moment qui est assez troublant quand on regarde le film, parce qu'on avait presque oublié le Police Fédérale Los Angeles. Et c'est gonflé de faire ça dans le film à ce moment-là. Et surtout, le film ne s'attache absolument pas au pas du tueur en série. Il s'attache à l'enquête. Et la dernière demi-heure, c'est la confrontation avec ce tueur en série qui est incroyable, parce que c'est un monstre. En fait, il ne nous est pas montré, son visage n'est pas montré. Il a une vie de famille, c'est un type normal. Et la confrontation va avoir lieu. Et en tout cas, c'est l'image qu'il dégage d'être un type normal. Et la confrontation va avoir lieu dans une dernière demi-heure qui est absolument effrayante. Et si vous ne connaissez pas ce film, qui est le meilleur film de Frédéric Schoendoerffer, Scène de crime, je vous le conseille vivement. Alors à l'époque, il y a même une scène d'autopsie qui est particulièrement marquante. Et je me rappelle qu'à l'époque, tout le monde est resté bluffé par le film. Je l'ai revu pour préparer l'émission. Le film fonctionne toujours très bien. Et en plus, ce qui est fort, et ça, il a hérité ça de son père, c'est un film faussement naturaliste. On a l'impression que c'est un film très naturaliste, alors que c'est très, très mis en scène, en vérité. C'est très, très travaillé. Donc il y a ce scène de crime qui va vraiment bouleverser la donne, mais qui va pas être suivi en fait des faits. Il va pas. Enfin, il y a eu quelques tentatives, mais qu'on va taire parce que c'est pas des bons films. Vous écoutez Culture Prohibée. Et puis arrive en 2014 le film de Cédric Anger, La prochaine fois je viserai le cœur, avec Guillaume Canet, Anna Girardot, qui est un film, alors nous on enregistre cette émission dans l'Oise, donc c'est un film évidemment qui est en lien, alors qui est tourné dans le Nord. Hein, moi, quand j'ai vu le film au cinéma, je cherchais les endroits où ça avait été tourné. C'est pas tourné dans notre département. Mais bon, c'est pas grave. Le Nord ressemble quand même pas mal à l'Oise. Et pourquoi je vous parle de l'Oise ? Parce que dans les années 70, il y a deux affaires qui ont traumatisé les habitants de l'Oise, les Isariens. Donc c'est l'affaire de Marcel Barbeau, le tueur de l'ombre, qui attend lui toujours d'être adapté au cinéma, parce que lui, c'est un personnage complètement hallucinant. Hein. C'est une sorte de Joe Spinell, sauf qu'il tue à la carabine. Voilà. Enfin, je pense qu'il y a un grand film à faire sur l'affaire Marcel Barbeau, parce qu'il faisait comme Joe Spinell. Hein. Il allait parler à sa maman la nuit au cimetière, tout ça. Il y a quelque chose à faire. Et puis Alain Lamarre. Alain Lamarre, c'est le tueur de l'Oise. Ça, c'est une histoire incroyable. Qui est gendarme dans le civil et qui est tueur, quoi. Qui est tueur en série, quoi. Lamarre, qui enquêta sur sa propre série de crimes, qui inspire donc en 2001 à Ivan Stefanovic l'ouvrage « Un assassin au-dessus de tout soupçon ». Et le livre est très factuel, hein, mais il sert de base à Cédric Anger là, pour écrire le scénario de « La prochaine fois, je viserai le cœur ». Et Alain Lamarre, qui est renommé dans le film « Franck Nehart », est campé par Guillaume Canet. Le spectateur suit son quotidien de sa première agression à son arrestation. Il l'observe chez lui dans un intérieur dont la seule fantaisie est une photo de nu féminin signée David Hamilton. Ah bon, à l'époque, c'était à la mode hein, d'avoir des photos de David Hamilton. Alors, il le voit singer l'amour avec sa petite amie, Anna Girardot. Il le regarde installer une tente militaire chez lui. Il l'accompagne dans de ses entraînements soldatesques en forêt. Il le surprend en train de se flageller, assailli par des pulsions morbides. Et il assiste à ses crimes, impuissant. Glacial est le premier mot qui vient à l'esprit au sujet de ce film, signé du réalisateur quand même de deux thrillers prometteurs, Le Tueur en 2007 et L'Avocat en 2010. Particulièrement inspiré par l'affaire Alain Lamarre, il signe son meilleur long métrage avec La prochaine fois, je viserai le cœur. Il adopte le point de vue de ce tueur torturé, un choix de mise en scène payant car Guillaume Canet est parfait, sa prestation très sobre évoque celle de Ryan Gosling en As du volant psychotique dans Drive. Le film de Winding Refn de 2011. La photo bleu-grise aux teintes métalliques de Thomas Hardmeyer restitue parfaitement l'esthétique d'un hexagone giscardien post-crash économique de 73. La péloche se conclut lors de celui de 79 qui va précipiter la France dans une crise encore plus grave. Le film regorge de scènes tétanisantes. Lorsqu'il se rend à l'hôpital dans le cadre de l'enquête au chevet de sa première victime, il la regarde dans les yeux et lui prend la main. Le spectateur est terrorisé. Et si la victime le reconnaissait ? Et si là, il achevait sa sale besogne ? Même s'il n'hésite pas à passer plusieurs heures dans des eaux dégueulasses pour échapper à ses pairs, Franck se singularise par une obsession de l'hygiène. Il trouve que ça pue chez sa compagne. Pendant qu'elle dort, une mouche se pose sur sa poitrine, salissant sa beauté virginale très hamiltonienne. À ce moment, impossible de ne pas se demander ce qui lui passe par la tête. Et si, à cause de cet insecte, il venait à flinguer sa dulcinée. Et c'est là que réside le tour de force de La prochaine fois, je viserai le cœur. C'est un film comportementaliste. La mise en scène sert à illustrer ce qui se passe dans la tête du tueur. Pour ce faire, en sus de la photo, Anger s'appuie sur une superbe partition de Grégoire Hetzel qui semble révéler les sentiments tourmentés du gendarme fou. Sans l'ombre d'un doute, avec La prochaine fois, je viserai le cœur, Cédric Anger signe l'un des meilleurs polars français des années 2010. Et ça, c'était avant, l'année suivante, 2015, avec l'affaire Esquin de Frédéric Tellier. Alors là, ce film, ça a été une vraie claque. Pareil, affaire de tueur en série célèbre dans l'Hexagone. Durant les années 90, Guy Georges, surnommé le tueur de l'Est parisien, marque de son empreinte l'histoire du crime hexagonal. Ce violeur et tueur en série qui poignardait sauvagement ses victimes est traqué par la police pendant près de 8 ans avant d'être appréhendé. C'est la première fois qu'un tueur en série est confondu par son ADN en France. Il est le SK1. Pour Serial Killer numéro 1. Frédéric Tellier, réalisateur de télévision, dont l'une des amies a été... Alors depuis, il a fait beaucoup de films pour le cinéma, mais aucun de l'acabit de celui-ci. À l'époque, il est réalisateur de télé et il y a l'une de ses amies qui a été violée. Donc il décide d'écrire pour le cinéma l'histoire de cette enquête. Il se documente pendant 6 ans, puis écrit pendant 3 longues années son scénario avec l'aide du brillant réalisateur de Loin des Hommes, David Holofen. Il sollicite la journaliste Patricia Touranchot, spécialiste de Guy Georges, puis soumet le script à différents protagonistes de l'affaire. Le film de Frédéric Tellier sort sur les écrans français en 2015. Il s'appelle logiquement donc l'affaire Esquin. L'enquête est racontée tout d'abord du point de vue de Frank Mine, dit Charlie, joué par Raphaël Personnaz. D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi un film à faire sur ce gendarme qui avait très vite cerné Alain Lamarre, le tueur de l'Oise, et qui avait très vite compris que c'était un collègue qui tuait et qui a été mis au banc par sa hiérarchie. Et ça, je pense aussi que ça ferait un film formidable, parce que c'est une histoire vraie, histoire qui s'est reproduite lors de l'affaire des disparus de Lyon, quand même, où il y a un film incroyable, un flic incroyable, plein d'instincts, qui avait trouvé tout de suite qui était le coupable et qui a été lui aussi mis au banc par sa hiérarchie. Alors, puis lui qui a eu une destinée assez hallucinante, parce qu'on soupçonne qu'il a été assassiné, on ne sait pas s'il s'est suicidé, enfin bref. Mais ça, c'est une autre chose, voilà. C'est une autre histoire. Et là, Raphaël Personnaz est un jeune inspecteur de la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. Il est donc amené à enquêter sur un crime sordide, celui d'une étudiante à la Sorbonne, Pascale Escarfaille. Pascale était belle, radieuse, elle a été violée et tuée avec une violence inouïe. L'enquête ne mène nulle part. Charlie ne tarde pas à découvrir que ce meurtre du 24 janvier 91 est le premier d'une longue série. Et pendant 8 ans, il continue obstinément la traque jusqu'à l'interpellation de Guy Georges en 1998. C'est également à travers les yeux de l'avocate Frédéric Ponce, Nathalie Baye, ex-épouse de maître Alex Ursulet, avec qui elle défend Guy Georges, que l'affaire SK1 est narrée. Frédéric Ponce veut comprendre comment cet homme, qui parfois peut avoir l'air si doux, presque fragile, a pu commettre tous ces crimes affreux. Cette recherche de la vérité va être le déclencheur d'un fait inattendu. Durant le procès, la vérité va éclater. Ce qui est assez rare avec quand même les psychopathes. Hein. Guy Georges va se dévoiler et finir par avouer sa culpabilité. Un tueur magistralement campé par Adama Nyan, qui lui confère une grande humanité. Il arrive à rendre touchant celui qui a violemment mis fin à la vie de cette jeune femme. C'est donc avec beaucoup de talent que Frédéric Tellier mélange les points de vue, les époques, allant jusqu'à faire évoluer la photographie de son film. Au départ, l'affaire SK1 a du grain sur la pellicule, puis les années 2000 débutant, l'image tend vers de la haute définition. Cette maniaquerie se retrouve dans sa mise en scène proche du documentaire. Impossible de ne pas songer évidemment à l'un des plus grands polars réalistes de l'histoire du cinéma français, L627 de Bertrand Tavernier. L'affaire SK1 est du même acabit, le sens du détail se retrouve jusque dans les scènes de crime reproduites à l'identique. Le procès est filmé dans la même salle que l'original. Tellier n'en néglige pas pour autant la psychologie de ses protagonistes. Très juste. Le polar de Tellier rentre dans un sous-genre, celui consacré donc au tueur en série. La comparaison avec les films que j'ai précédemment cités peut être à l'avantage de l'affaire SK1, tout simplement parce que là, il s'inspire d'un tueur réel, hein, par rapport en particulier à Scène de crime. Tout comme, d'ailleurs, la prochaine fois, je viserai le cœur de Cédric Angers. Donc, qu'on se le dise, Cédric Angers, comme Frédéric Tellier, ont quand même mis la barre très haut. Mais ça, Thomas, c'était avant l'arrivée de Peter Drudzis, quand même. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial faits divers et tueurs en série dans le cinéma français.
Un jeune metteur en scène donc qui a fait deux longs métrages quand même plutôt remarquables. Vaurien, qui suit encore une fois un tueur en série. Et comme tu l'as dit au début d'émission, il parle de masculinité toxique. Et là, on est entièrement du point de vue du tueur en série. Et comme pour Le Boucher de Claude Chabrol, les meurtres ne sont jamais montrés. C'est un traitement assez original. Parce qu'en plus, c'est un bonhomme qui est... c'est un personnage qui est encore une fois très ambigu. C'est plutôt un beau mec qui est séduisant, qui peut se montrer, qui peut avoir de l'humour, qui arrive à lier des liens assez facilement. Mais on découvre petit à petit, enfin dès la première scène, on voit qu'il y a un truc bizarre avec les femmes. Il n'y a pas de meurtre, on ne voit pas de meurtre dès la première scène, mais on voit qu'il y a un truc bizarre. Et il prend son temps pour dresser le portrait de cet homme qui est en fait une sorte de vagabond. Hein. On ne sait pas très bien qui il est, d'où il vient, mais c'est un vagabond qui s'incruste comme ça chez des gens. Alors, il peut se lier d'amitié avec des femmes sans vouloir les tuer, ce qui est étrange, généralement des marginales, parce que lui-même est un marginal. Et donc, parfois, on le voit suivre des femmes dans la rue, rentrer dans leur immeuble à leur insu et les suivre jusqu'à leur porte. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas, heureusement pour elles. Et je trouve le traitement très original parce que justement, il ellipse les meurtres. On ne sait pas en fait ce qui se passe. La première fois qu'il tue quelqu'un, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ce n'est qu'à la fin de la séquence où il y a un plan qui montre qu'effectivement, il y a eu un meurtre. Et ce qui est étrange aussi dans ce film, c'est que personne ne parle de... Il n'y a pas de... Les médias ne sont pas présents. Ne sont pas présents dans l'histoire, comme quoi il y a eu un meurtre, etc. On n'a pas l'impression qu'il est recherché. On a l'impression qu'il arrive à faire ses méfaits sans que ses méfaits soient reliés les uns aux autres. Parce que il a un modus operandi, hein, comme on dit. Hein. Donc, il pénètre chez les femmes plus ou moins de force. Et puis, il semble les torturer et puis après les tuer. Hein. Et il arrive à lier des liens. C'est assez bizarre. Il y a Ophélie Beau. Hein. Donc, il tombe amoureux d'Ophélie Beau, qui est aussi une marginale, qui est dans une sorte de collectif.
Dans un squat.
Ouais.
C'est filmé dans un vrai squat, d'ailleurs. Il y a une certaine véracité, quand même.
Et par contre, il est attaché à elle. Mais c'est un type assez bizarre parce qu'il va quand même jusqu'à lui offrir une bague qu'il a piqué à une de ses victimes. Et ce n'est que par des détails comme ça qu'on devine qu'il a tué une femme. Par exemple, il y a cette séquence dans un bus où il voit une femme, il repère une femme qui a une bague en particulier, une bague très particulière, très reconnaissable. Et il descend à l'arrêt après qu'elle soit descendue, elle. Et ce n'est que plus tard qu'on découvre qu'en fait, il a tué cette femme. Il l'a suivie jusque chez elle et il l'a tuée. Parce qu'il offre cette bague à Ophélie Beau. Et je trouve que donc, c'est un film très singulier, très original dans sa façon de dresser le portrait d'un tueur en série. Et encore une fois, dénué de spectaculaire. Hein.
Ouais, ce tueur, et tu l'as dit hein, Thomas, il est interprété par un acteur qui en fin de compte n'est pas très connu, mais qui est un très bon acteur, hein, qui est très prisé de beaucoup d'auteurs dans le cinéma français. C'est Pierre Deladonchamp, qui effectivement est très beau, très séducteur et en même temps vraiment effrayant. Il a vraiment ça en lui. Il y a même une scène où il s'amuse à raconter une histoire drôle et à la fin il a un geste violent. C'est plein de petites touches comme ça dans le film. Effectivement, je voulais signaler quand même que le réalisateur Peter Dorundis, donc qui a un certain âge, il n'est pas vieux, mais il a fait très peu de films encore pour l'instant, parce qu'au sortir de l'école de cinéma, il ne trouvait pas de table dans le cinéma, au sortir de l'ESRA, je crois qu'il a fait, et il a travaillé longtemps dans le SAMU social. Et ça l'a amené à faire un court-métrage qui s'appelle Errance, dans lequel Paul Amy interprète le personnage de Jay, c'est-à-dire le personnage de Pierre Deladonchamp dans Vaurien. C'est clairement, dans Errance, on retrouve des scènes qu'on retrouve dans le film Vaurien, et en particulier cette scène au début dans le train, où là c'est Zita Enro que Paul Amy va importuner. Bon, c'est quelqu'un d'autre dans Vaurien, et je pense que c'était important aussi parce que c'est quelqu'un qui connaît la marginalité et qui du coup n'a pas un regard sur la marginalité ni condescendant ni stigmatisant. Et Damien, toi, je crois que tu as découvert Dorundis avec ce film qui, moi, c'est vrai, m'avait énormément marqué à l'époque et qui a eu une sortie, je crois que je dois faire partie des 500 personnes qui l'ont vu en salle à l'époque, qui a eu une sortie sabordée. Enfin, c'est vraiment un film qui n'a pas marché, quoi.
Oui, l'introduction, on y revient souvent parce qu'elle pose vraiment toute la base du film. C'est une femme qui est assise dans le train, qui est au téléphone avec ses écouteurs, donc qui parle fort. Ce qui n'est pas agréable quand on le vit, mais en fait, le wagon dans lequel elle est quasiment vide. Et là, à ce moment-là, on a Jay, du coup, notre personnage principal, comme tu as dit, Jérôme, qui est joué par Pierre Deladonchamp, qui a reçu le César de l'espoir masculin pour L'Inconnu du Lac, qui va tenir le rôle de ce vaurien parfaitement du début à sa fin, qui s'installe en fait en face d'elle, dans un wagon quasiment vide. Elle parle, il commence à lui parler, et déjà, c'est un comportement étrange. On apprend assez vite qu'il n'a pas de billet et qu'il demande si s'ils peuvent faire semblant d'avoir le même. Et dès le départ, on nous le pose comme un pays, comme un personnage qui est vraiment bizarre. Plus ça avance, plus ça devient étrange. Comme l'a mis en avant Thomas, le premier meurtre n'arrive pas ici, n'arrive pas tout de suite. Mais ce qui rend le film incroyable, c'est que ce vaurien, en fait, devient littéralement un fusil de Tchekhov. C'est-à-dire qu'il va rencontrer des femmes au cours du film et on ne sait jamais si ça va mal finir pour elles ou pas. On voit qu'il arrive à tisser des liens amicaux, d'autres liens plus charnels, mais on voit aussi qu'il commet des meurtres et ça crée une tension tout au long du film parce que dès qu'il rencontre quelqu'un, on ne sait pas si ça va bien tourner ou pas. Et il y a autre chose qui, moi, m'a marqué dans le film et qui est lié au passé de Durruti, c'est que, en fait, c'est un film qui est rempli d'humanité. C'est-à-dire que ce vaurien, il va constamment croiser des gens qui vont l'aider. Il y a un moment où il a un peu un look vraiment de sans domicile fixe. Il se retrouve dans un bar où il va aux toilettes. Au moment de sortir des toilettes, il y a le barman qui lui dit qu'il a un café qui a été commandé pour lui. Il lui dit qu'il n'a rien payé. Et on comprend, en fait, que c'est le barman qui lui offre parce qu'il comprend qu'il est dans une situation un peu compliquée. Il y a un pote qui rejoint, qui l'aide à dormir, à rester dormir chez lui. On croise durant le film le SAMU social qui vient le voir pour lui proposer de l'aide. Il va finir par rejoindre un squat parce que justement il lui demande s'il a un lieu où aller. C'est un film où on va croiser en fait des gens qui s'aident beaucoup. On va croiser d'autres personnes qui sont un peu moins amicales. On va croiser un personnage raciste qui va vouloir se battre juste parce qu'à côté il y a un immigré. Mais c'est un film qui est rempli d'humanité mais qui est aussi rempli de cette tension. Est-ce qu'il va tuer ou pas la personne qu'il rencontre? Et l'autre point fort du film, c'est que le personnage du vaurien, en fait, il y a des trous, en fait. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui le fait tuer ou non. Comme on disait un peu avant, il y a une question d'opportunité qui se crée, mais on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'il réagit ainsi ou pas. Et c'est ça qui fait que le film, moi, m'a bluffé. C'est le fait que du début à la fin, on ne sait pas où il va et on ne sait pas qui sera sa victime. C'est tout le hasard qui rend le film intense.
Oui, ce que tu dis, Damien, oui, parce que c'est un cinéma comportementaliste, en fait, le cinéma de Doronzis aussi. C'est un cinéma où les personnages se définissent à travers leurs actes et sont aussi définis à travers les choix de mise en scène. Parce que c'est un metteur en scène avec des choix de mise en scène très forts. Juste pour dire, bah, je vous souhaite bon courage si vous essayez de trouver le DVD du film, parce que c'est un parcours du combattant. En plus, le film n'a pas eu de bol, il devait sortir, il y a eu le Covid, il a été repoussé à 2021. Ça explique aussi l'insuccès du film, qui a été remarqué par la critique, mais pas énormément par le public. Et il a fait d'autres courts-métrages, hein, Le Dernier Raccourci et Grand Boulevard. Grand Boulevard, on peut le voir sur YouTube, qui est un court-métrage dans lequel un homme laisse un message très très long sur le répondeur de la femme qui vient de le quitter. Et on sent toujours, c'est pareil, cette réflexion sur la masculinité toxique où le type n'arrive pas à se remettre en cause. Au début, il est charmant, après, il devient un peu flippant. Et c'est vraiment quelque chose qui va habiter aussi le film dont on va vous parler, l'autre film qui pour moi est un des meilleurs films de l'année 2025. Voilà, il est dans mon top 2 avec Substitution, Bring Her Back pour l'instant des frères Danielou. Là, c'est les deux films de genre qui m'ont absolument scotché cette année. Et ça s'appelle Rapace. Bon, ça sort chez Zinc en DVD. Et DVD Blu-ray. Et alors, c'est assez simple, en fait. Au départ, y avait l'affaire, c'est pareil, une affaire qui a marqué notre région, hein. L'affaire Élodie Kulik, vous savez, cette fameuse très belle jeune femme qui avait tout l'avenir devant elle, qui devait jeune directrice de banque ou voilà, et qui la nuit en revenant d'un restaurant à Saint-Quentin entre l'Aisne et la Somme est violée, tuée, torturée par des salopards et la France entière va être marquée, puisqu'en fait, elle va passer un appel à Police Secours, appel qu'on va entendre en boucle dans les médias, appel où alors là, si vous voulez entendre ce qu'est la terreur, la vraie, là, la terreur dans la voix de cette jeune femme qui malheureusement va trépasser peu de temps après, c'est absolument sidérant. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus marqué dans ma vie, d'avoir entendu ces quelques minutes. Et à partir de là, il y a un journaliste de détective qui va vouloir écrire un film et tirer un film de cette affaire. Et parce que cette affaire, elle a duré plus de 10 ans pour confondre les coupables. Certains étaient déjà morts quand on les a confondus. C'est l'ADN qui a fini par parler. Enfin, c'est une histoire complètement dingue. Sauf que Peter Doronzis, lui, va trouver le script pas extraordinaire. Donc, il va démarrer de l'idée de prendre le personnage principal, qui est un journaliste de la rédaction de Détective. Et ce journaliste de la rédaction de Détective, il va enquêter sur une affaire qui démarre un peu comme l'affaire Élodie Kulik avec l'appel radio, tout ça, et qui après devient autre chose. et devient un vrai discours d'ailleurs sociétal sur la masculinité toxique, très 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 impressionnant. Et le film se place du côté de l'enquêteur qui est joué. Alors, en plus, c'est filmé dans les vraies rédactions de détectives et tout. Alors, pour les fadas un peu de faits divers comme moi, c'est assez fun de voir ça mis en image. Et on suit les pas de Samy Bouajila qui, dès le début du film, rentre dans une boulangerie-épicerie et veut acheter du Rollo. Alors le Rollo, c'est le fromage préféré de ma petite fille. Le village de Rollo est à 3 km de chez moi. Donc ça me fait marrer de voir ça. Je vois le film qui démarre par ça. Et on comprend vite qu'en fait, il veut savoir ce qui s'est passé dans ce... Parce qu'en fait, le proprio s'est foutu en l'air dans la boutique et lui, il a envie de savoir ce qui s'est passé. Donc il fait le gars super sympa pour en fait pouvoir glaner des informations. Ce qui n'est pas très réglo, pas très honnête, pas très déontologique. Mais on va découvrir qu'en fait, ce type, il est en fin de compte, pas si salaud que ça. Mais il est prêt à tout pour faire un papier. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi un personnage joué par Daroussin, j'en dis pas plus, qui est extraordinaire. Et puis, il va emmener dans son enquête sur ce tueur, sur ce meurtre, en tout cas au départ. Il va découvrir qu'il y a plusieurs meurtres et tout ça, et il va emmener dans son enquête sa fille, qui est interprétée par une actrice qui monte, Mallory Vanek, qui est une actrice qui est de plus en plus connue aujourd'hui, qui est une jeune actrice française. Et il va être confronté à l'innommable. Et puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, moi je veux juste dire que il y a une séquence dans un restaurant qui m'a fait peur au cinéma, comme j'ai pas eu peur au cinéma. Je sais même plus depuis quand, parce que j'ai quasiment jamais peur au cinéma, vu que j'ai enquillé des dizaines de milliers de films dans ma vie. Et je trouve que c'est un monument de mise en scène. C'est un film extraordinairement prenant, tendu, assez fabuleux, en plus sociétalement, qui raconte plein de choses. Sacré film, Thomas.
Oui, effectivement, en plus, c'est un film qui parle de la presse. Il n'y a pas beaucoup de films français qui parlent de la presse. C'est un film qui parle de la presse. On enquête du point de vue de la presse. Et pour cela, c'est remarquable aussi, ça a signalé. Et effectivement, les dernières 20 minutes de film, c'est un monument de mise en scène et de suspense. Alors, si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous pour regarder Rapace. C'est un excellent film policier. L'un des meilleurs films français de cette année, même de ces dernières années. Et qui redore le blason du cinéma français.
Je voulais aussi vous parler du dossier Mal de Roi, mais on n'aura pas le temps. Le film de Fabrice Duvels qui est sorti chez The Jokers. Alors juste pour faire vite, s'inspirer de l'affaire Dutroux, je voulais juste vous dire que tant que le film s'en tient à la réalité sur la première heure et demie, je le trouve excellent. Et la dernière heure du film, parce que le film dure 2h30, c'est voulu comme une fresque, le film s'éloigne un peu de la réalité. Malheureusement, le film perd son intérêt pour moi. Mais je vous laisse vous faire votre propre idée. Quoi qu'il en soit, on vous conseille de regarder, de découvrir tous ces films, et en particulier de vous pencher sur le cas Peter Dourounzis. Et on espère qu'il nous fera plein d'autres films du même acabit que Vaurien et Rapace. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine !